Le corps des gardiens de la révolution islamique a démantelé une cellule terroriste dans le sud-est de l'Iran. Les troupes syriennes et russes ont mené leur premier exercice nocturne à Hama. Et au Niger, le nouveau dirigeant a déclaré que la junte ne céderait pas aux pressions pour réintégrer le président déchu, Mohamed Bazoum. C'était les principaux titres. En voici le journal. Une équipe de 4 terroristes a été démantelée ce jeudi 3 août par les forces du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, dans le sud-est de l'Iran. Le bureau des relations publiques de la base Qods du CGRI a déclaré dans un communiqué que les 4 membres de la cellule terroriste avaient été arrêtés. Une cellule d'un groupuscule terroriste affilié à l'arrogance mondiale qui avait des plans pour commettre des actes de sabotage et des opérations terroristes dans le sud-est du pays a été démantelée avec des renseignements compliqués et des mesures opérationnelles avant que les terroristes mettent leurs plans à exécution, lit-on dans le communiqué du CGRI. Selon le communiqué, les 4 membres de l'équipe terroriste ont été tous arrêtés. Selon le rapport, 6 armes, dont certaines équipées de caméras ainsi que diverses quantités de munitions ont été saisies à l'occasion. Dans une lettre adressée au pape François, chef de l'Église catholique, l'ayatollah Ali Sistani, grand dignitaire religieux des chiites irakiens, a appelé au redoublement d'efforts contre la haine et la violence et a plaidé pour le respect mutuel entre les croyants et les adeptes des religions monothéistes. Dans cette lettre, qui a été diffusée par le bureau de l'Ayatollah Sistani pour répondre à la récente lettre du pape François à l'occasion du 2e anniversaire de sa visite en Irak en mars 2021 et sa rencontre avec le haut dignitaire religieux des chiites irakiens, l'Ayatollah Ali Sistani a écrit « Dans cette lettre, vous avez évoqué des questions mentionnées lors de notre rencontre, dont la nécessité de la propagation dans le monde d'une culture de coexistence pacifique, du rejet de la haine et de la violence, ainsi que le respect mutuel parmi les croyants et les adeptes des religions monothéistes. Je partage vos hautes idées de défense des opprimés et des victimes de l'injustice dans le monde, notamment les minorités ethniques, religieuses et sociales qui souffrent de toutes sortes de harcèlements et de privations de leurs droits et de la justice. » L'Ayatollah Sistani a ajouté « Je saisis cette occasion dans cette lettre pour souligner le rôle essentiel de la foi en Dieu, du message divin et des principes de la morale pour permettre à l'humanité de sortir victorieuse des grands défis actuels. » Dans une autre partie de cette lettre, le grand dignitaire religieux des chiites irakiens a insisté sur l'importance de la protection de la famille en tant qu'importante institution sociale. Il est nécessaire de renforcer les fondements moraux et spirituels de la vie pour défendre les valeurs familiales, dont la piété, qui est le grand don de Dieu aux humains. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, s'est dit préoccupé ce jeudi 3 août par les conflits dans le camp palestinien d'Ain al-Ilva, au sud du Liban, et a déclaré à ce propos. La nation palestinienne a plus que jamais besoin de l'unité et de la cohésion entre les groupes politiques. Les conflits armés entre les forces proches du mouvement Fatah et un groupe armé connu sous le nom de Shabab al-Muslim a eu lieu dans le camp palestinien d'Ain al-Ilva depuis samedi 29 juillet. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé ses inquiétudes sur la poursuite des affrontements armés dans le camp, affrontements qui ont déjà laissé des dizaines de morts et de blessés parmi les Palestiniens, contraignant par ailleurs les réfugiés palestiniens de quitter leur maison se trouvant dans ce camp. Le diplomate a insisté sur la nécessité d'une cessation complète des heurts à Ain al-Ilva et d'un cessez-le-feu entre toutes les parties, affirmant que la nation palestinienne avait besoin plus que jamais de la cohésion et de la solidarité entre les courants palestiniens. Il est nécessaire que les groupes, les courants et le peuple palestinien restent toujours vigilants, qu'ils concentrent leurs forces et leurs ressources sur la lutte contre l'ennemi sioniste, qui est la source de tous les problèmes du peuple palestinien et de l'instabilité et des problèmes dans la région. Et enfin, il faut qu'ils rendent le terrain propice à l'annihilation du régime sioniste au retour de tous les réfugiés dans leur patrie, ainsi qu'à la formation d'un État palestinien autonome avec pour capitale Rots, a-t-il affirmé. Des violences armées à Ain al-Ilva dans la ville de Saïda ont éclaté depuis samedi soir, 29 juillet, et malgré tous les efforts de l'armée et des forces de sécurité libanaises, le feu de ce conflit brûle toujours. L'attentat manqué contre Mahmoud Khalil, surnommé Abu Ratada, l'un des commandants du groupe palestinien Hezb al-Ansar, groupe armé salafiste dans ce camp, a été la cause principale des conflits. Ce commandant de la sécurité a été blessé, mais Abd Farhoud, un membre du groupe palestinien Shabab al-Muslim, a été tué et 6 autres, dont 2 enfants, ont été blessés. Les ors se sont également intensifiés dans les quartiers d'Al-Safsaf et d'Al-Bakhsat dans le camp d'Ain al-Ilva, après les tirs sur la voiture du commandant de la sécurité nationale de la Palestine dans la ville de Saïda. Les observateurs politiques estiment suspects ces affrontements sanglants à Ain al-Ilva et ils n'ont donc pas exclu les traces des sionistes dans l'affaire. Parce qu'à l'ombre du pouvoir de dissuasion croissant du Hezbollah libanais et de l'affaiblissement de l'armée d'occupation en raison des crises internes, toute tension et tout conflit à l'intérieur du Liban, en particulier aux frontières sud du pays, profitera au régime de Tel Aviv. Le législateur libanais Oussama Saad a fait part des efforts déployés pour établir un cessez-le-feu permanent dans le camp palestinien d'Ain al-Ilva. Dans ce droit fil, le mouvement de résistance islamique palestinien, le Hamas, a appelé le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, à faire de son mieux pour mettre fin aux affrontements meurtriers dans ce camp. Dans un message, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a demandé à Nasrallah d'intervenir alors que les affrontements font rage entre les groupes palestiniens dans le camp de réfugiés palestiniens d'Ain al-Ilva, au sud du Liban. Haniyeh a déclaré que le Hamas prenait pour la paix et la stabilité à Ain al-Ilva, ajoutant que les armes des groupes palestiniens ne devraient être dirigées que contre l'ennemi sioniste. Le ministère russe de la Défense a diffusé une vidéo du premier exercice nocturne conjoint des forces russes et syriennes dans la province de Hama, située dans l'ouest syrien. Lors de cet exercice, les forces syriennes et russes ont pratiqué des opérations telles que la destruction des centres de rassemblement et des bases de terroristes fictifs. L'exercice a été secondé par des chasseurs russes de type Su-24 et Su-35, d'hélicoptères K-52 et d'artillerie syrienne. Les forces des deux armées ont attaqué aussi des centres sensibles des ennemis hypothétiques dans la province occidentale. Par ailleurs, les forces syriennes ont pratiqué des opérations héliportées et des atterrissages avec les systèmes de parachute Arbalète 2 à partir d'hélicoptères russes Mi-8AM-TSH à une altitude de 1500 à 3000 mètres. Une manifestation a été organisée mercredi 2 août dans le gouvernorat syrien d'Ouassaké pour condamner les forces démocratiques syriennes, FTS, soutenues par les États-Unis. Les manifestants ont exigé la fin des actions criminelles des FTS et ont demandé au gouvernement de Damas de mettre fin à la présence de ce groupe terroriste dans diverses régions syriennes. La manifestation a eu lieu dans le village d'Al-Hamr, situé dans le district d'Al-Hol, où les protestataires ont brûlé des pneus pour bloquer la route reliant Asaki Al-Haoul. Ils ont scandé des slogans pour condamner les actions criminelles des FTS qui kidnappent les jeunes, volent les produits agricoles et les biens des habitants des villages. Les forces d'occupation américaines, présentes illégalement dans les régions de l'est de la Syrie, tirent profit des complicités des FTS pour piller les richesses naturelles et les produits stratégiques de la Syrie, notamment le pétrole, le blé et l'orge. Les miliciens des FTS enlèvent systématiquement les jeunes des régions qu'ils contrôlent et les forcent à rejoindre leur rang. L'entité sioniste se voit face à une crise médicale sans précédent. Des centaines de médecins ont décidé de démissionner en signe de protestation contre les conditions de travail et les réformes judiciaires. Le PDG du ministère israélien de la Santé, Moshe Bar Siman Tov, ainsi que les dirigeants du système de santé israélien ont convoqué mercredi 2 août une réunion urgente avec les chefs de l'association médicale israélienne, exprimant leur inquiétude face à un éventuel exode de médecins protestants contre le plan de réforme judiciaire du cabinet. Les représentants de l'association ont averti que jusqu'à 500 médecins pourraient quitter ce territoire en raison du mécontentement envers le gouvernement et son plan de réforme judiciaire. Même si seulement 300 médecins devaient partir, la crise serait déjà insupportable, selon les responsables du ministère de la Santé. Après l'escalade de la crise dans les territoires occupés de la Palestine en raison des actions du cabinet, les médias israéliens ont rapporté que des milliers de médecins tentent de quitter la Palestine occupée d'Israël. Le canal 12 de la télévision israélienne a récemment confirmé dans un rapport que le nombre de médecins qui prévoyaient de quitter Israël en raison de la réforme du système judiciaire ne cesse d'augmenter. Les médecins et les soldats de réserve actifs et inactifs au sein de l'armée israélienne étaient parmi les groupes les plus importants qui ont fortement exprimé leur opposition au plan du cabinet de Netanyahou. Le nouveau dirigeant autoproclamé du Niger a déclaré mercredi que la junte ne céderait pas aux pressions pour réintégrer le président déchu Mohamed Bazoum, intensifiant une impasse avec le bloc ouest-africain qui a menacé d'intervenir après le coup d'État de la semaine dernière. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a imposé des sanctions au Niger et a déclaré qu'elle pourrait autoriser le recours à la force si les putschistes ne restaurent pas la présidence de Bazoum dans la semaine à compter de dimanche dernier, a-t-on appris de Reuters. Le bloc a également envoyé une délégation au Niger mercredi pour négocier avec les officiers militaires qui ont pris le pouvoir dans l'espoir de trouver une solution diplomatique avant qu'ils n'aient à décider d'intervenir ou non. Dans une allocution télévisée, Abdourahman Tiani a déclaré que la junte rejette totalement ces sanctions et refuse de céder à toute menace, d'où qu'elle vienne. Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Des licenciements massifs à cause des faillites d'entreprises records aux États-Unis. Les États-Unis connaissent une vague inhabituelle de troubles sociaux alors que l'inflation et la lenteur de la croissance économique nuisent aux ménages moyens. De Hollywood aux employés de l'hôtellerie, du syndicat des conducteurs routiers aux ouvriers du secteur industriel, il y a tellement d'actions syndicales aux États-Unis. Les médias mainstream commencent à l'appeler un été chaud de travail syndical. Le problème n'est pas une chaleur record, mais celui des salaires bas, de mauvaises conditions de travail, des taux d'intérêt hors de portée et des niveaux d'inégalité choquants, sans oublier la suppression des programmes sociaux de l'ère de la pandémie de coronavirus et de la capitalisation non réglementée des bénéfices par les entreprises. À Chicago, les travailleurs de la santé faisaient grève pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail dans un contexte d'inflation record et d'années d'épuisement. Dans le plus grand licenciement collectif depuis 2020, quelque 30 000 salariés et leurs familles sont désormais sans chèque de paie après que le géant du transport maritime Yellow a déclaré faillite à la veille d'une grève. L'administration du président Joe Biden a refusé à Yellow un renflouement d'environ 1 milliard de dollars, bien qu'il ait dépensé 23 milliards de dollars pour sauver deux banques plus tôt cette année et envoie plus d'un milliard de dollars par semaine pour alimenter les troubles en Ukraine. Les grèves vont-elles se généraliser aux États-Unis? Beaucoup d'Américains n'ont jamais vu une chose pareille. Les médias mainstream ne passent certainement pas beaucoup de temps à parler des soulèvements ouvriers. Cependant, il est clair que le paysage post-COVID soit défini par les difficultés économiques et les troubles sociaux.